Bonjour, ce jeudi 21 décembre, vous êtes à l'émission Les Voix de Service Magazine avec Monique Kerouac, Marie Lalande.
Bonjour.
Et Yvan Deslauriers à l'animation. Mesdames, lundi, on a hâte. On a hâte au prochain lundi. C'est rare.
Non, mais on a hâte à Noël.
Hein?
On a hâte à Noël.
Ben, d'habitude, dans l'année, quand le lundi arrive, on dit pas le lundi, mais là, on a hâte au prochain lundi.
Oui.
Mais en attendant, on a concocté une très belle émission pour vous. Alors, mesdames, qu'est-ce que vous nous avez préparé?
Ah, moi, je vais vous parler d'une nouvelle agréable. Pas
comme
ça
dans
rien
la
à
chanson.
Voir avec l'appel agréable concernant les résultats en lecture des élèves québécois,
okay,
dans un premier temps. Puis ensuite, on va parler de l'existence du Père Noël.
Mm-hmm. Quoi, il existe?
Ah!
Alors, s'il y a des jeunes qui nous écoutent présentement, là, assurez-vous d'être avec vos parents pour qu'on vous explique ce qui va se passer.
Exactement.
Monique,
alors,
c'est à toi.
Alors moi, c'est un peu moins rigolo, mais je vais parler d'applications mobiles et comment elles pourraient être utiles peut-être à la dépression.
Et contre la dépression, peut-être.
Contre la dépression, ou enfin, en lien avec la dépression.
Okay.
Et le deuxième article, bien, il y a une résistance aux antibiotiques, semble-t-il.
OK.
Et des chercheurs ont trouvé comment annuler cette résistance-là. Alors, c'est une découverte assez importante.
Dans le temps des fêtes, on appelle ça l'alcool.
Pas tout à fait.
Pas tout à fait. OK, ça va être d'autres choses. De mon côté, je passe plusieurs émissions à vous expliquer les bienfaits de l'activité physique. Ce matin, je vais passer mes deux articles à vous parler de personnes qui peuvent vous encourager, vous aider dans l'activité physique. C'est tout ce que je vous en dis pour l'instant.
Dans les deux cas?
Dans les deux cas.
Ah bon, c'est intéressant.
Dans le premier cas, c'est quelqu'un que vous pouvez imaginer, puis dans le deuxième cas, c'est une personne réelle.
Mmh.
Alors, on est prêts, mesdames?
On est prêts.
On est prêtes.
On est prêts, Mathieu? Alors, Monique, tu commences à nous parler d'applications mobiles.
Exactement. Alors, c'est un article de Cécile Coumeau de la revue Science et Avenir d'octobre 2017. J'arrive à la fin de cette revue-là. J'aurais fait à peu près tous les articles. Ils étaient pertinents. Vous en conviendrez.
Mais
oui,
tu sais que tu nous inities à une lecture que probablement plusieurs personnes ne font pas.
Ben, c'est ce que je trouve intéressant et je dois dire que je suis souvent agréablement surprise de voir que les articles dont je parle sont parfois repris à la radio ou dans Québec Science, entre autres, quand je prends des choses de l'Université de Montréal.
Alors, peut-être un jour, on va te perdre. Ça, c'est vraiment épeurant.
Non, ne vous inquiétez pas, je suis attachée à vous.
D'accord.
Alors, l'article s'intitule « Les applications mobiles au secours de la dépression ». Alors, Internet pourrait-il devenir un filet de sécurité pour les personnes en souffrance psychologique? Eh bien, c'est en tout cas l'ambition de Google. Alors là, tout le monde a un peu peur, mais attention. Aux États-Unis, toute personne qui tape le mot « mood disorder », c'est-à-dire dépression, dans le moteur de recherche, se voit aussitôt proposer le test PHQ-9. Bien connu des psychiatres, donc ça c'est déjà un point rassurant. Il y a 9 questions pour auto-évaluer son niveau de déprime. Opération marketing peut-être, un coup d'épée dans l'eau? Eh bien non, nous dit le professeur Philippe Courtet, qui est psychiatre au Centre hospitalier universitaire de Montpellier. De toute façon, dit-il, nous voyons beaucoup de patients qui font des autotests. Alors, tant mieux si le PHQ-9 est validé scientifiquement et distribué largement. En clair, les psychiatres ne sont pas contre un petit coup de main, surtout face à l'ampleur de la tâche. Alors, en France, en ce moment, on estime en effet qu'une personne sur 5 souffre ou souffrira d'une dépression au cours de sa vie. Et c'est sensiblement la même chose de notre côté de l'Atlantique. Parmi ces millions de malades, beaucoup ne seront pas diagnostiqués et plus du tiers ne bénéficieront d'aucun traitement. il y a des données qui sont dans la marge et on dit que 14 % des adolescents souffrent de dépression en France. 39 % des dépressifs ne sont pas suivis médicalement et 50 % récidivent dans les 2 ans après un premier épisode dépressif. C'est quand même assez imposant.
Hein? 1 sur 2, là.
Oui, c'est ça. Donc, submergé, vous le devinez, les psychiatres continuent malgré tout de faire preuve d'intérêt pour les nouvelles technologies. On dit malgré tout, mais c'est en fait surtout. Oui, ils sont très contents.
C'est un outil de plus. Là.
C'est un outil de plus. Tout comme les personnes dépressives ou se croyant telles qui se sentent parfois délaissées. Donc, les psychiatres y voient un avantage, mais aussi les personnes un peu atteintes, je dirais.
Touchées, oui.
Touchées, merci. En France, le manque de psychiatres contraint en effet les patients à attendre en moyenne 32 jours pour avoir un rendez-vous. Je pense que c'est encore plus de notre côté de l'Atlantique. Et parfois, c'est peine perdue. Il faut avoir des contacts pour pouvoir avoir accès à ces soins.
Mm-hmm.
En outre, pour diagnostiquer une dépression ou prédire un risque de rechute, les psychiatres ne disposent pas d'outils fiables ni de marqueurs biologiques, comme c'est le cas pour d'autres pathologies. On va aller prendre une prise de sang, on va faire une radiographie, mais là, c'est une radiographie de notre âme, ouais. C'est très complexe.
Mm-hmm.
D'où l'intérêt de certaines applications d'aide au diagnostic ou de prévention. Donc, il est essentiel de développer l'éducation émotionnelle. Et pourquoi pas si les technologies peuvent nous aider. Alors, mais ces technologies peuvent intervenir bien au-delà du simple conseil. Certains psychiatres ont recours à des applications mobiles pour compléter la prise en charge de leurs patients dépressifs. Alors, ils publicitent notamment les carnets de jour. Alors, le patient répond régulièrement à des questions sur son humeur, sur son sommeil. Ces applications peuvent aussi prolonger l'action des médecins en agissant sur les principaux symptômes de la dépression, dont la perte d'intérêt pour des activités jugées plaisantes par le patient. Ça va mal quand on aime quelque chose et que
ça ne nous intéresse plus.
Donc, grâce à la géolocalisation des smartphones, celui-ci, c'est-à-dire le patient, peut ainsi se voir suggérer une balade à vélo s'il vient de passer 6 heures à ne rien faire sur son canapé. S'il fait le potato couch, on va dire « Hé, vous êtes-vous habillé? Quels sont vos projets pour la journée? » Alors, ce genre de message, même automatisé, peut pousser à reprendre progressivement une activité. Alors, c'est quand même des plus pertinents, vous en conviendrez. Alors, des chercheurs bordelais sont allés plus loin en faisant appel à l'intelligence artificielle et plus précisément à l'informatique émotionnelle. Alors, ils ont créé des humains virtuels capables de mener des entretiens avec les patients et donc de diagnostiquer des dépressions en se fondant sur le DSM-5 quand même. C'est le manuel, vous connaissez, diagnostic de référence élaboré par l'Association américaine de psychiatres.
Pas intimement.
Non, mais on en a entendu parler quand
c'est
même.
C'est un outil sérieux.
C'est un outil sérieux. Donc, on a créé, par exemple, Julia, agent conversationnel, qui a été testé sur des personnes à risque, venue consulter pour des problèmes de sommeil. Alors, pour le moment, elle diagnostique bien les situations extrêmes, telles que les dépressions sévères ou très légères. Mais des progrès dans l'analyse de la communication non-verbale, notamment les émotions faciales, devraient éventuellement permettre à ces psys virtuels de franchir une autre étape. Ils représentent un gros progrès dans le diagnostic précoce et pourront aussi aider à contrer les effets de la désertification médicale. J'ai bien aimé cette expression-là. Selon une étude, 80 % des personnes souffrant de troubles de l'humeur acceptent de répondre à 5 entretiens par jour pendant une semaine par l'intermédiaire d'une application mobile. C'est peut-être moins engageant exigeant que le contact personnel. Dans la vraie vie, l'enthousiasme a tendance à retomber. Donc, ces outils ne révolutionnent pas la vie quotidienne des dépressifs, mais ils peuvent aider dans les formes, en tout cas, des moins sévères. En revanche, la recherche pourrait bien faire de grandes avancées grâce au big data, à toute cette information qui est colligée à travers des moteurs comme Google, par exemple, produite par ces applications. Les technologies mobiles nous ont déjà permis de valider ce qui n'était qu'une hypothèse. Les dépressifs interprètent de façon négative tous les événements. Ils voient tout en noir. Le méga nuage, il est là, c'est vrai. Alors, comme si un filtre colorait toute leur vie. Et ça, c'est une révolution. Alors, on ne peut que souhaiter, dans ce cas-ci, que les applications mobiles soient, encore une fois, étudiées, qu'on poursuive l'étude et que des gens puissent en bénéficier éventuellement.
C'est intéressant. Ça me rend perplexe.
Oui. Ben, ça me rappelle, il y a un film... Oui.
Scarlett Johansson.
C'est Scarlett Johansson qui faisait la voix.
Exactement. Oui. Puis, exactement.
Je ne l'ai pas vu, là, mais là, tu me donnes le goût peut-être d'aller voir dans ce coin-là.
Alors voilà.
Marie, juste un instant, on va juste reprendre la référence de Monique.
Alors, c'était Cécile Coumeau dans la revue Science et Avenir d'octobre 2017. Merci. Et j'espère que je ne vous ai pas trop déprimée.
Non, pas du tout. Au contraire. Alors, Marie, plein de monde t'a écouté dans toutes tes interventions et il semblerait que ça a donné des résultats. Parle-nous de ça.
Oui, comme si j'avais quelque chose à voir là-dedans. Alors, le titre du texte que je vous lis, c'est « L'école québécoise forme-t-elle de bons lecteurs? » C'est une question. Et c'est un texte qui a été publié dans Le Devoir le 14 décembre dernier. Il a été écrit par le collectif de recherche sur la continuité des apprentissages en lecture et en écriture, composé de professeurs des universités de Sherbrooke, Laval et de l'Université du Québec à Montréal et en Outaouais. Le 5 décembre étaient rendus publics les résultats de la dernière enquête PIRLS, P-I-R-L-S, réalisée en 2016 et portant sur l'évaluation de la compréhension en lecture des élèves de 4e année du primaire. Alors que la situation relève de la catastrophe en Belgique francophone et en France, où on observe une chute continue des performances des élèves durant les 15 dernières années, le Québec ne s'en sort pas trop mal. Les résultats de nos élèves se situent nettement au-dessus de la moyenne internationale. Ils sont en hausse par rapport aux enquêtes réalisées en 2001 et en 2011 et dépassent même la moyenne canadienne. Et ces résultats vont dans le même sens que ceux révélés il y a un an à propos des performances en lecture des élèves québécois de 15 ans dans le cadre de l'enquête PISA, PISA, qui situait les élèves québécois parmi les meilleurs au monde. C'est quand même intéressant. Malgré toutes les limites que présentent les indicateurs fournis par ce type d'enquête et le contexte dans lequel ces dernières ont été réalisées au Québec, il faut bien en parler, il y avait eu un faible taux de participation et une surreprésentation des écoles privées. Alors, malgré ça, se pourrait-il que l'école québécoise, si décriée par certains, forme quand même d'assez bons lecteurs? Et si oui, quels seraient les facteurs expliquant une telle situation? En comparaison avec ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, trois facteurs méritent d'être relevés. D'abord, l'importance accordée à la lecture à l'école. Deuxièmement, la promotion de la lecture pour tous. Et finalement, la formation des enseignants. Le plan d'action pour la lecture à l'école, mis en œuvre entre 2005 et 2011, a permis de dégager des moyens financiers pour commencer à renouveler le contenu des bibliothèques scolaires, pour engager plus de bibliothèques spécialisées dans les écoles et offrir des activités de formation continue aux enseignants dans le domaine de la lecture. Alors, s'il y a un champ où ma maigre contribution a pu faire une influence ou offrir quelque chose, c'est là. Dans ma période de travail
intense.
T'es
très modeste.
Oui, c'est ça. Un programme de recherche financé par le ministère a également été mis en place afin d'augmenter la base de connaissances autour des différentes dimensions de l'apprentissage et de l'enseignement de la lecture auprès de tous les publics d'élèves. Le rapport d'évaluation de la mise en œuvre du plan soulignait la nécessité de développer ces actions à long terme. Malheureusement, le régime d'austérité budgétaire a sonné le glas ou diminué l'ampleur de plusieurs actions qu'il serait essentiel de relancer. Sur un autre plan, de nombreuses recherches ont montré l'influence de facteurs extrascolaires dans le développement des capacités en littératie, dont la qualité des pratiques vécues dans le milieu familial.
Oh mon Dieu, essentiel.
Essentiel, les occasions offertes aux enfants de pratiquer la lecture, d'y prendre plaisir, d'être en contact avec des adultes lecteurs et d'avoir entre les mains des livres de qualité dans différents contextes. La qualité des services offerts par le réseau des bibliothèques publiques joue en ce sens un rôle fondamental. Il faut aussi souligner l'importance du travail réalisé par les organismes visant à rehausser les compétences des parents faiblement alphabétisés. Au-delà du contexte familial, c'est l'ensemble des environnements fréquentés par les enfants et leurs parents qui peut avoir une incidence déterminante. Enfin, les résultats des élèves sont à mettre en relation avec la qualité des pratiques pédagogiques mises en œuvre au quotidien par les personnes enseignantes. Cela conduit à évoquer les modèles de formation initiale et continue de ces professionnels et professionnelles, féminins et masculins.
Mm-hmm.
Le Québec a fait le choix de former ses enseignants du primaire et du secondaire dans des programmes universitaires longs de 4 ans, articulant la formation théorique et pratique. Dans ces programmes, la didactique de la lecture occupe une place à consolider car les apprentissages à faire sont nombreux. En prenant appui sur une diversité de savoirs issus de la recherche et sur l'observation des pratiques dans les milieux scolaires, les étudiants sont amenés à connaître les processus impliqués dans la lecture et à prendre conscience du rôle essentiel joué par les compétences en littératie dans la réussite scolaire, ainsi que dans le développement personnel et professionnel futur de leurs élèves. Ils doivent aussi avoir une connaissance critique des productions destinées aux jeunes et aux adolescents, dont celles sur les nouveaux supports numériques. De notre point de vue, celui des professeurs qui font partie de ce collectif qui a écrit cet article, la combinaison des choix faits par le Québec en matière de promotion de la lecture à l'école et en dehors de l'école, ainsi que de formation à l'enseignement, pourrait bien expliquer en grande partie le fait que l'école québécoise forme, tant bien que mal, de bons lecteurs, comparativement à ce qui se passe en Europe francophone. Les orientations choisies et les programmes de soutien à la lecture constituent donc des points d'ancrage essentiels pour la mise en place de la nouvelle politique sur la réussite éducative, articulée autour de l'importance du développement des compétences en littératie. Alors, célébrons le fait que nos élèves ont de bons résultats en lecture.
Mm-hmm.
Moi, je pense qu'on ne le dit pas assez souvent. On passe notre temps à se plaindre et à déplorer. Voilà. Alors,
ouais.
Bravo. C'est une belle réussite.
Et c'est la base pour l'apprentissage de toutes sortes d'autres choses.
Et voilà.
La personne qui ne sait pas lire a des portes fermées pour plein d'autres matières.
Voilà. Alors, c'était un article publié, un texte publié dans Le Devoir le 14 décembre dernier.
Merci beaucoup, Marie.
Plaisir.
On m'avait invité d'aller réveillonner pour fêter l'arrivée de la nouvelle année, moi qui ai toujours gai, je n'ai pas refusé. Et à mon arrivée, j'ai entendu chanter un de ces bonbons, prendre un verre de bière avec la cuisinière dans un petit coin noir. Et puis ces bonbons, faites-le en riant, y a pas de mal là-dedans, l'argent du jour de l'an.
Ça souhaite une bonne c'était The Lost Fingers et la chanson que nous connaissons tous, La Cuisinière.
Et moi, j'enchaîne avec, justement, La Cuisinière, ça a l'air d'être une bonne camarade d'entraînement pour boire. Alors, j'enchaîne avec un article qui nous donne 7 signes pour reconnaître un bon camarade d'entraînement. C'est un article écrit par Geneviève Lefebvre dans la presse du 20 décembre 2017. Et si j'ai pas le temps de lire les sept signes, je reprendrai après. 6h37, dans le chlore de la piscine du centre communautaire du Centre-Sud, j'entends la respiration rapide de David, qui reprend son souffle à côté de moi. Même couloir, même réveil frigorifique à l'aube, même série de sprints, d'où notre souffle style phoque asthmatique. David Pacciola, alias King Dave, est connu et aimé pour sa propension à distribuer les go avec autant de générosité que d'enthousiasme à tous ceux qui ont besoin d'une petite poussée pour aller plus loin. Coach patient, triathlète émérite, plusieurs podiums à son actif, David est aussi un camarade de sport exemplaire, tout en douceur, en gentillesse et en respect envers ses compagnons d'effort, peu importe leur niveau. Si je vous parle de David, c'est que pour la plupart d'entre nous, décembre est le mois des biscuits, des tourtières, mais aussi des bilans. J'en entends une qui rit à cause des biscuits. Et j'ai envie de vous dire qu'au-delà du big data, les kilomètres courus, nagés, roulés, les calories dépensées, ce qui reste au bout du compte, ce qui fait une réelle différence dans notre motivation à bouger, à jouer dehors, à nous améliorer, ce sont les moments partagés avec nos camarades de sueur. Libre à vous d'y voir une métaphore de la vie. À quelles caractéristiques reconnaît-on un bon camarade d'entraînement? Premièrement, c'est quelqu'un qui sait faire la différence entre l'effort et la performance, qui sait que tout ne se mesure pas en chiffres, que les performances peuvent varier pour mille et une raisons, mais qui, toujours, sait reconnaître le cœur au ventre. T'as terminé dernier, mais t'as donné tout ce que t'avais, il le sait. Il reconnaît la valeur de ton effort et son high five plein de vigueur, aïe aïe ma paume, en est la preuve. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui respecte ceux qui se présentent à l'entraînement. T'es là, tu fais partie de la gang. C'est aussi quelqu'un qui, sauf circonstances exceptionnelles, honore ses engagements. Elle a dit qu'elle serait là samedi matin à 8 heures, elle est là. Et elle sautille sur place parce qu'il fait frais en temps. Troisièmement, un bon body de sport, c'est quelqu'un qui dédramatise les diverses situations. Qui a le don de trouver le bon piton pour te faire rire au moment où tu allais t'enflammer, t'énerver et angoisser. La météo apocalyptique sur la ligne de départ, on va se faire un mud hero, on va jouer dans la boîte de 42,2 km. Ça va être drôle. On s'est égaré dans le bois? Tirons à la courte paille pour déterminer qui sera mangé en premier. Voyez le genre. Bon, des fois...
J'irai pas.
Bon, des fois, on veut le tuer. Mais ça ne dure jamais longtemps parce qu'il vient, encore, de dire une niaiserie qui nous fait trop rire. Et en toute franchise, à part les questions de vie ou de mort, qu'est-ce qui est vraiment grave? Rien. Quatrièmement, c'est quelqu'un qui voit le verre à moitié plein, sauf celui de la bière à la fin de la course dans le bois, il est vide. Ces encouragements vont toujours dans le sens des améliorations de ce qu'il y a de beau, de bon, de positif. Il sait relativiser une mauvaise passe, la mettre dans un contexte de vie, trouver les bons mots, poser une main sur l'épaule. Sa simple présence nous fait relever la tête, même quand ça nous tente moins et quand c'est un très bon body, il nous donne envie de rendre l'appareil aux autres. Si, si. Cinquièmement, c'est quelqu'un qui cache la caverne d'Ali Baba, Monique, écoute ça, dans ton sac. Des Advil, un plaster, une épingle, un caramel. Très important de toujours garder un caramel dans une poche. On ne sait jamais quand on peut avoir besoin de réconfort. Un plan B, un billet de 20 $, les clés du char, un élastique à cheveux, une paire de gants, un tube de rechange pour les crevaisons, des Kleenex et quelques bières, juste au cas. Le body de sport est un hybride entre le garage familial et le dépanneur et notre ami Jean, chez qui on trouve de tout, même des hot shots. Et ici, je vais m'arrêter avant les deux autres. Je reprendrai tout de suite à la fin. Vous allez vous prendre un verre de jus d'orange, un petit café, du eggnog à ce moment-ci. Merci, Mathieu. Et vous nous revenez parce qu'on a encore plein d'autres histoires de ce genre-là à vous raconter pour la dernière demi-heure de l'année.
Que j'ai aujourd'hui, j'ai l'impression que je vais que mettre des chansons de Noël. Ça doit être quelque chose dans l'air. C'était Angélique Kijot qui nous chantait « Oh, Holy Night ».
C'était une très belle chanson. Merci beaucoup. Je termine les 7 signes pour reconnaître un bon camarade d'entraînement. Je t'ai rendu au signe numéro 6. C'est quelqu'un qui ne perd pas de temps à diminuer les autres, à semer la bisbille, à créer des divisions. Ai-je besoin d'en rajouter? Non. On connaît tous un ou deux chercheurs de poux. Et dans le bilan de l'année, il fait partie des « out ». Les endorphines, ça sert à aller mieux et à s'embellir le moral, à se donner des forces pour affronter la vie. Le monde ne manque pas de gens formidables. Allons vers eux. Et septièmement, c'est quelqu'un à l'ego assez solide et sain pour ne pas se sentir diminué par le succès des autres. Montrer son affection, son admiration, vanter les réussites des copains, il et elle, donc, sait faire ça. Ça rayonne de partout, ça réchauffe et ça prouve qu'un bon compagnon, c'est essentiellement quelqu'un qui donne envie d'être là. Et pour terminer, Madame Lefebvre nous donne ses souhaits. Elle dit « J'en profite pour vous souhaiter le plus joyeux temps des fêtes et vous remercier de vos nombreux témoignages. De façon remarquable, vous m'avez tous parlé de votre plaisir à bouger et pas du tout de calories. Allez donc courir en paix et heureuse bûche à vous tous. » Alors, c'était dans l'article « 7 signes pour reconnaître un bon camarade d'entraînement » de Geneviève Lefebvre dans la presse du 20 décembre. Et on passe maintenant à Monique.
Oui. Qui... Alors, je vous parlerai de résistance aux antibiotiques.
Oh!
Oui.
Ça veut dire qu'on prendrait des antibiotiques et ça ne marcherait pas parce
exactement.
Que...
Exactement, il y a quelque chose qui bloque. Okay. Alors, c'est un article de la salle de presse de l'Université de Montréal du 21 novembre dernier. Alors, les antibiotiques sont couramment utilisés afin de guérir les maladies causées par les bactéries. Mais, comme le signale l'Organisation mondiale de la santé et d'autres organismes internationaux, on note dans le monde une croissance marquée de la résistance aux antibiotiques. Alors, étant donné la prédominance de ces médicaments dans la médecine moderne, à titre préventif, à la fois pendant les interventions chirurgicales et durant les traitements, par exemple, contre le cancer, la progression de la résistance bactérienne présente un danger d'autant plus important. On le sait, hein, on veut guérir. Mm-hmm. On ne veut pas être plus malade.
Tout à fait.
Alors, c'est pour cette raison que les chercheurs s'affairent à élaborer des stratégies pour combattre cette menace. Et à l'Université de Montréal, ben, on est à l'avant-garde de ce combat. L'une des façons, alors soyez très attentifs parce que c'est un petit peu complexe, mm-hmm. mais je pense qu'on peut arriver à très bien comprendre ce qui se passe. L'une des façons pour les gènes qui déterminent la résistance aux antibiotiques de se propager dans les hôpitaux et dans l'environnement est de se répliquer dans les plasmides. Soyez patients, je vais vous expliquer ce que sont les plasmides, qui se transfèrent entre bactéries. Alors, il y a de la communication là, qui se fait.
C'est des cadeaux qui se donnent.
Exactement. Mmh. Un plasmide, c'est un fragment d'ADN qu'on trouve dans des bactéries ou des levures. Alors, il est porteur, ce plasmide, de gènes utiles aux bactéries, particulièrement quand ces gènes contaminent des protéines qui peuvent rendre les bactéries résistantes aux antibiotiques. Alors, il y a de la propagation qui se fait et à contre-courant, puisque les antibiotiques ne sont plus efficaces. Alors, une équipe de chercheurs de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal vient de concevoir une méthode permettant de bloquer le transfert de gènes de résistance. L'étude est menée par Bastien Cazu, Tarun Aria, Benoît Bessette et Christian Baron a été publiée au début du mois de novembre dans le journal Scientific Reports. Et on sait, les publications, c'est important. C'est ça qui met les recherches sur la map, entre guillemets. Les chercheurs ont filtré un groupe de petites molécules chimiques pour trouver celles qui se fixent à la protéine TRAE. Ça, c'est la mauvaise, la mauvaise protéine.
La méchante.
Oui, bien, en fait, elle devient méchante. Un composant essentiel du transfert des plasmides. Une analyse a indiqué l'emplacement exact de la fixation des molécules sur la protéine TRAE, une information grâce à laquelle des chercheurs ont mis au point des molécules plus performantes qui, au final, ont réduit le transfert de plasmides porteurs de gènes de résistance aux antibiotiques.
Ça, c'est intéressant.
Vous me suivez bien?
Tout à fait.
Donc, la barrière n'est plus là.
En fait, ils inhibent
la
résistance.
C'est ça.
Christian Baron espère que cette stratégie pourra favoriser la découverte d'un plus grand nombre d'agents inhibiteurs de transfert de gènes de résistance. Parce qu'il y a beaucoup de bactéries. Alors, on imagine qu'il faut plusieurs types d'inhibiteurs
pour contrecarrer
tout ça. On cherche le point faible d'une protéine. On le vise, on lui donne des petits coups pour que la protéine ne puisse plus fonctionner, explique le chercheur.
On lui donne des petits coups.
Ben, c'est joli, hein? La valeur de notre étude sur TRAE réside dans le fait qu'une compréhension de la structure moléculaire de ces protéines offre la possibilité d'imaginer des méthodes pour empêcher leur fonctionnement. Alors, M. Baron et ses collègues, ils ne font pas ça juste entre eux. Alors, ils collaborent avec les chercheurs en chimie médicinale de l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie de l'Université LIRIC, afin de faire de ces nouvelles molécules des agents inhibiteurs puissants contre le transfert de gènes de résistance aux antibiotiques. Le chercheur espère qu'un jour, ces molécules pourront être utilisées dans les cliniques, dans des cliniques et des hôpitaux qui sont des foyers majeurs de résistance. Au bout du compte, la réduction du transfert de plasmides de résistance aux antibiotiques pourra aider à maintenir l'efficacité des antibiotiques contribuant, bien sûr, à une stratégie globale en vue de l'amélioration de la santé humaine. Mm-hmm. Il a fallu 4 ans à l'équipe de l'Université de Montréal pour arriver aux conclusions publiées aujourd'hui. Il faut être patient. Mm-hmm. Mais c'est assez de temps pour que la résistance aux antibiotiques devienne un problème inquiétant à l'échelle mondiale.
Oui.
Joanne Liu, que l'on connaît bien, professeure de médecine pédiatrique à l'UdeM, mais aussi présidente internationale de Médecins sans frontières, a qualifié le problème de « tsunami ». Et M. Baron ne pense pas qu'elle exagère. Il nous dit « c'est une excellente image, car nous savons tous qu'il arrive ». Ce n'est pas comme recevoir quelques gouttes d'eau sur le visage tous les jours. Nous assistons tous à la montée des eaux. Alors on dit que d'ici 2050, 50 millions de personnes décéderont d'infections résistantes aux antibiotiques. Le jour approche où nous ne pourrons plus traiter les infections avec des antibiotiques. Cela dit, les gens peuvent se permettre d'espérer, entre autres, grâce à la découverte qu'ont fait nos chercheurs si haut mentionnés. La science offrira de nouvelles et de nouvelles idées et de nouvelles solutions à ce problème. Et actuellement, il y a une mobilisation internationale autour de cette question. Je ne dirais pas que je me sens en sécurité, nous dit M. Baron, mais il est clair que des progrès sont nettement en cours. Alors, on va espérer qu'ils vont avoir encore des subventions pour poursuivre rapidement les recherches. Mm-hmm. C'était donc un article de la salle de presse de l'Université de Montréal du 21 novembre dernier.
Merci infiniment, Monique. Alors, Marie, tu vas nous parler d'un sujet extrêmement délicat.
Oui. Alors, et je vous fais une mise en garde, tous et toutes. Est-ce que vous avez de jeunes enfants? Est-ce qu'ils sont près de vous actuellement? Si c'est le cas, éloignez-les pour quelques minutes ou mettez-leur des écouteurs sur les oreilles. Faites-leur écouter de la musique ou un film de Noël. Je ne voudrais pas briser la magie de Noël pour eux, parce que je vous lis maintenant un texte qui risque de produire cet effet-là sur eux. Alors, vous êtes prêts? Les petits sont occupés à autre chose? Allons-y. Le titre, « Le Père Noël n'existe pas ». C'est un texte de José Bournival, auteur.
Mathieu est couché par terre.
José Bournival, elle est auteure, animatrice et blogueuse. Elle est aussi maman de 3 petites filles et d'un bébé garçon. Son texte a été publié sur le site naître-et-grandir.com le 13 décembre. Clémentine, c'est l'une de ses petites filles, avait 5 ans la première fois qu'elle a émis un doute concernant l'existence du Père Noël. Celui à la télé et celui du centre commercial n'avaient pas la même barbe. Un avait des lunettes alors que l'autre n'en avait pas. Elle était perspicace. Elle affirmait aussi qu'il était impossible qu'un gros monsieur se glisse par notre cheminée pour laisser des cadeaux au pied du sapin. Tout comme il était impensable qu'un être humain parcourt la planète entière en une seule nuit. On a invoqué la magie de Noël et prétexté l'embauche de substituts pour aider le vrai Père Noël qui est débordé à l'approche du 25 décembre. On a évité de répondre ou contourner le sujet habilement. On voulait prolonger le plaisir quelques années encore. Malgré nos efforts pour entretenir le mythe, la magie s'est envolée. Mon cœur de maman a soupiré. Déjà, j'espérais qu'elle y croit encore un peu plus longtemps. Je ne me rappelle pas le moment où j'ai personnellement compris que le Père Noël n'existait pas. Mais je me rappelle mon émerveillement lorsqu'on rentrait de la messe de minuit et que les cadeaux étaient apparus comme par magie sous le sapin, alors qu'ils n'y étaient pas à notre départ. Avant de partir pour l'église, ma mère se chargeait de les déposer en vitesse et de nous rejoindre dans la voiture familiale. C'est également elle qui m'a raconté, bien des années plus tard, que j'ai cru au Père Noël jusqu'à 7-8 ans et que c'est mon frère aîné qui a vendu la mèche. Je me suis donc mise à craindre que Clémentine dévoile la vérité aux plus jeunes. Mais non. Jusqu'à présent, Elle est complice avec nous. Elle joue tellement bien son rôle qu'à l'occasion, j'ai l'impression qu'elle y croit encore. C'est une bonne comédienne. Si je vous raconte tout ça, c'est pour vous faire comprendre pourquoi je suis émue chaque fois que Léonard, c'est son petit garçon, s'extasie devant notre sapin de Noël. Pourquoi je souris tendrement quand il pointe la porte des lutins qui est apparue comme par magie le week-end dernier dans notre salon. Pourquoi j'ai hâte de voir son visage ébahi à l'apparition des cadeaux sous le sapin. C'est parce que maintenant je sais que le Père Noël n'existe pas pour toujours et que chaque Noël doit être vécu au maximum. Et vous, jusqu'à quel âge vos enfants ont-ils cru au Père Noël? Êtes-vous triste quand ils découvrent que le Père Noël n'existe pas? Ou êtes-vous soulagé qu'ils connaissent enfin la vérité? Écrivez-nous pour nous raconter ça. On est curieux. Canal m@vusezvoix.com.
Oh, on lance une invitation.
On lance une invitation.
Oh, voilà.
Alors, je vous lis un article qui est une entrevue avec Marv Levy. Marv Levy, ça a été un entraîneur des Alouettes de Montréal.
Marv Levy, non, Marc Levy.
Oui, c'est ça, j'ai fait une erreur à un moment donné.
Non, non, c'est moi.
Alors, Marv Levy puis Mark Trestman, c'est pour moi, là, c'est deux sages. J'écoute ce qu'il me dit, puis j'essaie d'appliquer ça dans d'autres... d'autres secteurs de ma vie. Alors, c'est une entrevue qui a été réalisée par Antoine Deshaies. C'est dans la section podium du site de la Société Radio-Canada. Ça s'appelle Marv Levy, le rôle de l'entraîneur motivé. Et je vous en raconte seulement que des brides parce que c'est un article qui est très, très long. Je voue une immense admiration à Winston Churchill, premier ministre de la Grande-Bretagne pendant la Deuxième Guerre mondiale. À 12 ou 13 ans, j'écoutais ses discours à la radio. Les Britanniques étaient sur le point d'être défaits par les Allemands. On connaît la suite de l'histoire. Il était vraiment inspirant. Je l'ai étudié une bonne partie de ma vie, et plus je l'étudiais, plus je l'admirais. Pour moi, c'est le personnage le plus marquant du 20e siècle.
We will conquer.
Oui. Never surrender. Il avait tous les talents. Il était bien sûr un orateur hors pair, mais il montrait aussi courage et leadership. À l'université, j'ai suivi des cours de littérature anglaise et d'histoire. J'ai toujours aimé me servir de mes connaissances pour faire passer mes messages auprès de mes joueurs et pour les inspirer. Chaque fois que je voyais un lien entre l'histoire et notre quotidien, je m'en servais. Je me souviens d'une journée extrêmement chaude et humide d'un camp d'entraînement avec les Bills de Buffalo, que j'ai dirigé pendant 12 ans. Nos joueurs souffraient et certains levaient le pied. Je comprenais, mais je n'étais pas du tout satisfait de l'attitude de l'équipe. Le soir venu, pendant notre réunion d'équipe, j'ai eu l'idée de leur présenter une situation qu'avait vécu mon père lors de la Première Guerre mondiale à la bataille de Bois de Belleau, au nord-ouest de Paris. La 4e brigade des Marines, dont il faisait partie, venait d'arrêter la progression des soldats allemands vers Paris. Au moment où les soldats allaient regagner les tranchées pour se reposer, le commandant a surpris ses hommes en ordonnant une contre-attaque immédiate. Déjà exténués, les soldats ne voulaient pas reprendre le combat si rapidement. Le commandant a alors crié « Quand c'est trop dur pour eux, c'est parfait pour nous ». Il est sorti le premier et les soldats n'ont pas eu le choix de le suivre. Les Américains ont effectivement réussi à faire reculer l'armée allemande au prix de lourds sacrifices. Le lendemain de mon exposé, mes joueurs avaient montré beaucoup plus d'ardeur à l'entraînement. Les mois ont passé, puis en janvier, tout juste avant le début de notre match éliminatoire contre les Raiders de Los Angeles en finale d'association, joueurs et entraîneurs se sont retrouvés en caucus. Il faisait un froid de canard, il neigeait et il ventait. Les conditions étaient désagréables. Les joueurs me regardaient et espéraient un discours. Un de nos secondeurs étoiles, Daryl Taylor, m'a demandé s'il pouvait prendre la parole. Il a alors lancé au groupe « Si c'est trop dur pour eux, c'est parfait pour nous ». nous avons gagné 51-3.
Oula! Oh, ben là, ça s'est écrasé à plat de couture.
Un petit peu, ouais. Ce n'est pas le rôle de l'entraîneur de motiver les joueurs. Les inspirer, oui. Les motiver, non. La clé pour gagner, c'est d'embaucher des joueurs qui sont intrinsèquement motivés par la victoire. Un entraîneur ne peut pas transmettre artificiellement sa motivation. Elle doit venir des joueurs eux-mêmes. J'ai toujours pensé que chaque entraîneur devait diriger son équipe en étant authentique. Pour cette raison, j'ai toujours parlé aux joueurs avec mon cœur. Je disais ce que je pensais qu'il fallait pour gagner des matchs. Je n'ai jamais prononcé de grands discours de motivation. Je n'ai jamais demandé à mes joueurs s'ils avaient la volonté de gagner. Je préférais leur demander s'ils avaient la volonté de se préparer pour gagner. Car si vous n'êtes pas prêt à faire tous les sacrifices pour vous préparer, vous ne gagnerez pas. Je garde d'excellents souvenirs de mon séjour avec les Alouettes de Montréal de 1973 à 1977. J'ai adoré vivre dans cette ville du Canada. J'ai noué plusieurs amitiés chez vous. Jamais je n'oublierai notre conquête de la Coupe Grey au Stade olympique en 1977. Ça fait 40 ans, mais je me souviens encore des 68 000 spectateurs réunis sous un froid de canard. Et oui, il faisait très froid. J'espère avoir marqué les joueurs que j'ai dirigés. J'ai toujours essayé de leur enseigner des principes auxquels je croyais profondément. J'ai toujours exigé d'eux qu'ils honorent notre sport. J'ai toujours réitéré le même message aux joueurs. Jouer de façon dure, jouer proprement, jouer pour gagner, mais victoire ou défaite, retourner rapidement au travail. Je souhaite de tout cœur qu'ils aient retenu mes enseignements. Comme Winston Churchill l'a déjà dit, le succès n'est jamais permanent, comme l'échec n'est jamais fatal. Ce qui compte, c'est d'avoir le courage de continuer. Alors, c'était une très courte partie de l'entrevue avec Marv Levy qui nous dit que le rôle de l'entraîneur, c'est de motiver.
D'inspirer et non pas de motiver.
De motiver et non pas de... je vais vous revenir, là, tu m'as eu.
Oui, c'est les joueurs
c'est
qui se motivent.
Ils et non pas
c'est
de
d'inspirer
motiver.
Et non pas de motiver, oui. Effectivement. On a à peu près 5 minutes pour faire toutes sortes de petites brèves. Mesdames, je commence avec un chiffre de la semaine. C'est très important de le faire maintenant. Qu'est-ce que ça peut vous dire pour vous,
11h28?
11h28? Eh bien, ça veut dire
c'est
que...
C'est l'hiver qui arrive!
C'est exactement ça!
Oui, c'est
un morceau de robot pour Monique. L'hiver arrivera officiellement à 11h28 ce matin.
Oui.
Dans 1h30 à peu près.
Alors, c'est Hélène qui vivra le transfert, le passage en direct de l'automne à l'hiver.
Marie, c'est à toi.
Alors, je vous parle d'une ressource qui est super intéressante, qui s'appelle « Capable comme les autres ». C'est plein de ressources gratuites pour le développement de l'autonomie. C'est réalisé en collaboration avec Jacques Langevin, professeur titulaire de la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal et co-responsable du groupe Défi Accessibilité, ou GDA, et son équipe. Le projet Capable comme les autres permet principalement aux élèves ayant des incapacités intellectuelles de s'initier à certaines habiletés essentielles à l'autonomie et ce, à l'âge approprié à chaque habileté. Un exemple, savoir payer une somme de moins de 10 $ à 9 ans. Pour consulter l'infographie, on clique, en fait, on va sur le web et on écrit « capable comme les autres » ou bien « capable.ctreq.qc.ca ». Vraiment, des ressources hyper intéressantes.
Oui, vraiment, surtout en cette période-ci de l'année. Oui. Monique, tu as une capsule pour nous.
Une capsule linguistique.
Oui!
Alors, y a-t-il un rapport entre le verbe « boire » et les mots « pourboire » et « déboire »
Eh bien, nous allons le savoir.
Pour boire et
alors,
déboire.
Pourboire d'un seul mot est une gratification. c'est-à-dire une somme qu'on offre à un salarié en sus de ce qui lui est dû. Mm-hmm. On dit qu'à l'origine, cette somme était tout juste ce qu'il fallait pour se payer une consommation.
Donc, pour boire.
Autrement dit, attends mon punch! On remerciait quelqu'un pour la qualité de ses services en lui donnant un peu d'argent
pour boire,
en deux mots. Alors, continuons. On a donc vu boire, on a vu pourboire, maintenant déboire. Alors, à l'origine, on appelait déboire l'arrière-goût désagréable que laissait dans la bouche une boisson, généralement une boisson médicamenteuse. Mmh. Avec le temps, on s'est mis à utiliser déboire au sens figuré, au figuré dans la langue littéraire. Un déboire était en quelque sorte une désillusion. De nos jours, le mot déboire est toujours pluriel et il désigne une suite d'épreuves ou d'événements pénibles. Oh, alors, on ne se souhaite pas de déboire pendant la période des fêtes, mais des pourboires, pourquoi pas.
En deux mots.
En deux mots, voilà.
Un mot d'enfant?
Oh, un et quelques-uns?
Quelques-uns. Alors, oui. Cloche, d'abord, selon Célestin qui a 10 ans, elle sert à réveiller le bon Dieu le dimanche matin pour aller à l'église. Et droit de veto, tiens, selon Jean qui a 9 ans, c'est le droit des docteurs des animaux, droit de veto, de ne pas soigner les animaux trop malades.
Oh.
Veto pour vétérinaire.
Vétérinaire, ben oui.
Et statue, tiens, selon Gaspard, 5 ans et demi, la plus connue est la Vénus de Milou. Et même si elle n'a plus de bras, Tintin l'aime quand même.
Elle est trop mignonne.
Elle est vraiment drôle.
Alors, il nous reste une minute et je vous propose la météo urbaine d'aujourd'hui. Le temps d'un baiser. Dis, tu auras du gui pour qu'on s'y embrasse au-dessous au Nouvel An? Qu'on se fasse cette promesse d'amour anglo-saxonne, qu'on se souhaite le meilleur pour la nouvelle année? Non, non, je ne te demandais pas de m'épouser. Il est révolu le temps des serments du genre sous ses petits fruits. Cependant, comme les druides le faisaient dans le temps, tous les combattants de ce monde devraient se retrouver sous un bouquet de gui et déposer les armes, faire une trêve pour une journée, qu'ils se rendent compte, en se regardant bien dans les yeux, qu'ils se ressemblent, qu'ils sont des humains, rien de moins, rien de plus. Embrassons-nous sous le gui, créons un temps de tendresse et pas besoin d'attendre le jour de l'an. On pourra commencer dès ce samedi.
Joyeuses fêtes à tout le monde.
Oui,
joyeuses fêtes, profitez-en bien.
Joyeuses fêtes à Mathieu, qui est le metteur en onde. Et on vous retrouve tous les trois le 4 janvier.